Double Face, Valérie Ogier.
Double Face ce dimanche avec Antoine Rubin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le dernier de la liste en quelque sorte, puisque ça marche par ordre alphabétique, ce prix du livre de la ville de Lausanne. Si vous regardez sur le site du prix du livre, il y a les 5 auteurs et autrices qui sont sélectionnés pour cette 12e édition. Antoine Rubin, vous êtes le dernier avec un R.
Le dernier est le seul biennois aussi, apparemment.
Et vous êtes avec votre ouvrage Calcaire, au pluriel, c'est paru aux éditions La Veilleuse. Et le sous-titre est peut-être aussi important, on aura l'occasion d'en parler. Promenade en terres oubliées, je fais la liaison parce qu'en fait tous vos mots sont au pluriel dans cet ouvrage.
Ben oui, parce qu'en fait, c'est un triptyque, hein, ce livre, c'est-à-dire que c'est trois histoires, trois grandes explorations qui s'articulent autour de la montagne du Jura, du massif de calcaire, en fait. Et puis, les géologues seront d'accord pour dire qu'il n'y a pas qu'un type de calcaire, par exemple. Et donc, il n'y a pas qu'une seule montagne, il n'y a pas qu'une seule histoire. Voilà, c'est d'où l'idée du pluriel.
On va faire plus ample connaissance avec vous, mais je dresse votre portrait. Vous avez fait des études en sciences sociales et en anthropologie à l'Université de Neuchâtel. Vous vous consacrez aujourd'hui entièrement à vos activités artistiques et littéraires. Et on signale que vous êtes le fondateur de Vos Biches Ours. Ça, c'est un projet qui fusionne spoken word et musique.
C'est une manière de transmettre les textes sur la scène, de ne pas les transmettre tout seul, donc faire ces petites lectures tout seul en tant qu'auteur, mais vraiment d'avoir un collectif autour de moi, de musiciens, de musiciennes, et puis de proposer des performances, vraiment un set, hein, comme un concert, si on veut bien, pour chaque texte différent. Donc voilà, c'est une manière de ne pas être tout seul et puis de porter à la rencontre du public, de raconter une histoire directement, ces textes-là, et puis d'être à la frontière entre musique et texte, voilà, justement.
Si on remonte le fil du parcours d'Antoine Rubin, l'élément déclencheur qui vous a poussé littéralement à vous lancer dans l'écriture, c'est lequel ?
Qu'est-ce qui m'a poussé à aller... Je crois que j'ai appris à écrire comme tout le monde en Suisse, c'est-à-dire à l'école. En fait, oui. Finalement, c'est bête à dire, mais c'est vrai, c'est là qu'on apprend à écrire, à utiliser la langue, à faire des mots, des phrases, etc. Et puis, je crois que les premières rédactions qu'on faisait se sont révélées être des espaces de liberté. Et puis, peut-être que ça serait une première, une première pierre à l'édifice. Après, il y a les lectures, évidemment. J'ai toujours aimé lire. On m'a toujours aussi beaucoup raconté d'histoires quand j'étais petit. Et je crois qu'on ne peut pas écrire sans lire ou sans écouter des histoires. Et voilà. Après, quand ça arrive, quand ça se matérialise, ça, c'est une autre question. Il y a peut-être l'adolescence, il y a des carnets, il y a même un blog. Il y a une envie, quoi, d'aller se confronter aux mots, de sortir quelque chose de soi. Et puis ça vient comme ça.
Mais petit, vous rêviez d'être écrivain ?
Non, petit, je pense pas. Petit, qu'est-ce que je voulais faire ? Je crois qu'un temps, j'avais une idée très précise. Je voulais être ingénieur en aéronautique. Je pense à la fin de l'école primaire parce que j'étais fasciné par les avions, par les choses qui volent, quoi. Et je pense que j'avais cette idée de vouloir construire quelque chose qui vole, donc c'était déjà un peu poétique finalement.
Créer ?
Peut-être créer, ouais, c'est ça. Créer, réfléchir, pour avoir finalement un bel objet à la fin. Et c'est un peu ça, faire des livres. Non, et c'est plus tard qu'après, j'ai fait mes études au gymnase, en philosophie. Enfin voilà, les livres étaient importants. Et puis, vu que j'écrivais, j'avais cette petite pratique quotidienne. Tout d'un coup, plus tard, au niveau de l'université, il y a un livre qui arrive parce qu'en fait, j'avais écrit un texte assez long. Et puis, je l'ai proposé à un éditeur biennois. Puis, il me dit, on en fait un livre. Et voilà, les choses arrivent comme ça, petit à petit. Mais ce qui est marrant, peut-être, c'est que... Et moi, je m'en souvenais pas, c'est que j'ai re-rencontré une ex-copine que j'avais plus vue depuis des années. Et puis, elle m'avait dit, à un moment donné, quand elle avait vu que j'avais sorti des livres, donc c'était une copine quand j'avais 15 ans, quoi. Et en fait, elle m'a dit, t'écris, t'as fait ce que t'avais envie de faire. Et moi, j'avais totalement oublié que je m'étais raconté ça à cette époque de l'adolescence.
Et à cette époque-là, quand le parcours d'écrivain se dessine, il y a un soutien de la famille ?
Alors, je pense que dans la famille, les lettres sont, admirer dans le sens où voilà, on aime lire, donc un livre c'est beau, mais quand ça devient, disons, une trajectoire professionnelle, non, là il y a beaucoup plus de questions, évidemment. J'ai pas été encouragé à en faire mon activité principale. Mais quand même, oui, il y a un soutien dans la mesure où ce n'est pas une activité qui sort de nulle part. Et puis après, voilà, je me fais lire par la famille. Et puis c'est aussi des retours. Alors après, je ne sais plus qui a dit ça, mais si on fait de l'art qui plaît à nos parents, ça veut dire qu'on a raté notre carrière. Mais voilà, mes parents aiment plus ou moins ce que je fais. Ça dépend des livres, quoi.
Je suis obligée de vous poser la question. Calcaire, ils ont aimé ?
En fait, ils me font toujours des retours assez laconiques. Je crois que le retour de mon papa sur Calcaire, c'était « à nostalgie quand tu nous tiens », trois petits points. Voilà, c'était son retour.
Antoine Rubin, donc l'invité de Double Face cette semaine avec l'ouvrage « Calcaire » qui fait partie des 5 ouvrages retenus pour le prix du livre de la ville de Lausanne. On a parlé de vos débuts d'écrivain. Votre premier livre, justement, c'était quand, c'était où, c'était sur quel sujet ?
Et en fait, mon tout premier livre s'appelle... Alors, il n'est pas répertorié. Il est répertorié, mais on ne le trouve plus parce que c'est une édition artisanale qui était tirée à environ 150 exemplaires, qui avait été reliée à la main, dont j'avais relié une partie moi-même. Il y avait un éditeur, hein, ce n'était pas de l'auto-édition, mais quand même, voilà, il y avait l'idée d'artisanat derrière ce livre. Ce livre-là s'appelle « Le champ des conteneurs » et en fait, il retrace un voyage en bateau cargo, en porte-conteneur, entre la Malaisie et puis l'Europe. Et ça, j'avais, c'était quoi, 2012, 2013, j'avais 22, 23 ans. Ce livre-là, je l'ai écrit en même temps que je faisais mes études en sciences sociales, puis en anthropologie, entre Lausanne et puis Neuchâtel. Et puis, en fait, ce qu'il faut dire derrière ça, c'est que moi, j'habitais déjà à Bienne, et puis donc j'avais des amis qui faisaient l'Institut littéraire à Bienne. Donc c'était à cette époque-là, l'Institut littéraire était très jeune, c'était les premières volées. Et donc, c'était la première école d'art en Suisse qui propose vraiment de travailler l'écriture, hein, comme n'importe quelle autre forme d'art. Et donc, je me trouvais avec des amis, avec un cercle qui, en fait, était, si on veut bien, plongé dans ce bain de l'écriture, plongé dans cette idée aussi de métier d'écrivain. Et donc, moi, ça me donne... aussi la possibilité de réfléchir au fait que c'est concret, quoi, en fait.
Qu'il y a des perspectives,
d'écrire, c'est possible. Quoi, c'est possible, enfin voilà, c'est une pratique artistique, hein, qui est reconnue. Et puis donc, un ami avait publié aux éditions du Noyau, à Bienne, que cette petite maison d'édition, son premier livre, pendant que lui-même était étudiant à l'Institut littéraire. Et puis moi, vu que je gravitais dans le même cercle, j'ai aussi proposé ce texte à Michael Brack, qui était l'éditeur de ces éditions qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, voilà, ça, c'était le tout premier livre. Mais en fait, sociologiquement, on peut dire que la première publication, finalement, c'est l'entrée dans la vie publique. C'est un peu la naissance d'un auteur, d'une autrice. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre écrivain, auteur, c'est finalement la publication. Et puis, donc, ça a été le premier d'un autre parcours. Après, il y a eu Wanderlust, qui était un texte paru aux éditions Torticolis et Frères à La Chaux-de-Fonds. Et ça, c'était plutôt un recueil de textes de voyage, on va dire. Donc toujours sur la lignée des voyages. Et puis ça, c'était le deuxième livre. Et après, je terminais mes études. Il y a ceux des forêts, cette recherche sur des personnes qui vivent dans la forêt aujourd'hui en Suisse, donc par leurs propres moyens, dans des habitations autonome, on va dire, des cabanes, quoi. Et donc, moi, je m'étais intéressé pendant 2 ans à ces gens qui vivent dans les bois en Suisse, comment on en arrive à vivre dans les bois aujourd'hui en Suisse, quels sont leurs parcours, puis quels sont leurs quotidiens, comment elles subviennent à leurs besoins, comment finalement elles se débrouillent. Et donc ça, cette recherche a donné lieu après une publication de l'Institut d'ethnologie à Neuchâtel. Et puis j'ai décidé à la fin d'en faire en fait un roman, c'est-à-dire de prendre ce matériau d'écriture-là, enfin un matériau de réflexion-là, et puis d'en faire des personnages, et puis d'en faire une fiction autour de ces trajectoires. Et donc ça, c'était mon troisième ou quatrième livre. En fait, j'ai plein de petits projets à gauche, à droite. Et après, il y a eu d'autres choses. Il y a eu des livres avec un peintre, par exemple, Claude Gigon. Il y a eu des plus petites publications, voilà, etc. Et puis ensuite, il y a eu Gamin de Talus, qui est encore un livre qui est paru aux éditions La Belle Rapace à Mervelier, dirigé par Augustin Rébété, qui est artiste plasticien notamment. Et puis, voilà, après, il y a eu Calcaire, c'est le dernier, dans toute la liste un peu des ouvrages. Et donc, pour revenir à cette question de comment on devient écrivain, moi, j'ai toujours fonctionné finalement avec le proche, avec le local, avec des gens qui gravitent autour de moi, avec... voilà, des éditeurs qui sont là. Ah, t'as pas un texte, tu peux m'envoyer. Ben oui, j'envoie, etc. Et voilà, c'est ça un peu finalement mon parcours. Et puis après, ben, ça s'est imposé comme activité majoritaire de mon temps, en fait.
Et ce que vous décrivez au fur et à mesure de ces multiples expériences, c'est aussi de multiples expériences d'écriture. Si vous deviez définir votre style littéraire, il serait multiple, alors
Oui, ouais, je pense que... enfin. Comme les médecins généralistes, je dirais que je suis écrivain généraliste dans le sens que j'essaie de faire un peu de tout. Hein. Voilà, c'est toujours un apprentissage d'écrire, en fait, parce que chaque livre est un nouveau projet et une nouvelle langue que j'essaie de trouver, un nouveau souffle qui est pas pareil à chaque fois. Et donc, bah là, j'ai écrit pour le théâtre. Là, on écrit toujours pour le théâtre, pour une pièce, par exemple, qui sera jouée en février 2026 au Théâtre du Loup, que je coécris avec Jérôme Richer puis Julie Gilbert, qui sont deux autres autoristes de Genève. Et donc, voilà, bah, le théâtre, écrire pour la scène, pour les propres lectures, écrire un roman ou écrire des textes courts, voilà, c'est chaque fois des expériences différentes. Et donc, ouais, on peut dire que je suis généraliste. J'essaie de l'être.
Antoine Rubin, votre quatrième et dernier livre en date, c'est Calcaire. Vous expliquiez précédemment cette multitude d'écritures. En fait, ce n'est peut-être pas sur votre style littéraire qu'on devrait vous interroger, puisque vous dites « je suis un écrivain généraliste », c'est peut-être le fil conducteur. Il y a forcément un point commun entre tous ces ouvrages, toutes ces expériences, elles se situent où ? Sur l'homme ? Sur l'humain ?
Sur l'humain, bah oui, bon, il y a toujours de l'humain. De toute façon, après, il y a aussi beaucoup d'écrivains qui se plaignent d'avoir finalement d'être très limités dans leur thématique. On dit aussi qu'on peut toujours réécrire le même livre d'une certaine manière. Moi, les constantes, c'est le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une idée de voyage qui se retrouve quand même dans beaucoup de mes livres, en tout cas de mouvement. Il y a une idée de forêt aussi. Donc voilà, c'est un espace pour moi extrêmement important. Enfin, ce qu'on appellerait avec des gros guillemets la nature, mais c'est-à-dire que comment... existe d'autres manières d'habiter, par exemple, que ce soit dans la forêt, mais que ce soit aussi, je parle de squat dans Calcaire, et puis aussi dans Mémoire d'une forêt, donc cet autre livre qui est paru. Et donc, il y a cette idée d'habiter autrement, il y a cette idée d'habiter, en fait. Je crois que l'idée d'habitat, elle m'intéresse foncièrement. Ça pourrait être un des fils rouges qu'on retrouve dans plusieurs de mes livres.
L'habitat comme sorte d'appartenance ?
Alors appartenance, bah oui, parce que habiter, en fait, c'est comme ça dit beaucoup de choses de nous, hein, comment on habite. Mais il y a l'idée de collectivité, hein, en fait, parce que voilà, je parle justement de squat, hein, dans Calcaire notamment. Donc il y a cette idée de comment on appartient à un groupe. Et puis c'est ce que j'ai, en fait, en faisant des sciences sociales et de l'anthropologie, moi, c'est ce qui m'intéresse finalement. C'est cette idée d'étudier des sociétés, des collectivités, comment des groupes d'humains se débrouillent pour avoir une société qui fonctionne, quoi, si on veut bien. Donc après, ça peut faire partir du côté de la philosophie avec l'utopie, mais ça peut aussi faire partir sur le très concret, en fait, sur comment un squat, ça fonctionne, comment les gens essaient de s'organiser, qu'est-ce que c'est, en fait, les idées derrière, pourquoi on prend des friches pour les habiter, pourquoi on occupe une maison qui était vide et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et donc il y a cette idée, finalement, ouais, de que tout est possible dans l'habitat.
Et tout est possible aussi pour l'individu à travers le collectif.
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Bah en fait, moi je m'intéresse finalement à voilà des trajectoires de personnages dans mes livres qui appartiennent à des collectifs et qui soit affirment cette appartenance ou cherchent à créer un groupe ou au contraire cherchent à s'en échapper. Cherchent à s'échapper de normes, cherchent à s'échapper d'une société plus large pour créer finalement de nouveaux terrains, de nouveaux territoires, voilà, d'habitat ou d'autres, d'utopie, si on veut bien.
Et toujours cette éternelle question, est-ce qu'on résiste mieux seul ou est-ce qu'on va plus loin en collectif ?
Alors moi, je pense qu'on va plus loin en collectif, hein, ça c'est clair. Après, justement...
Mais on va plus vite seul.
Peut-être qu'on va plus vite seul, mais c'est dur d'être tout seul. Enfin, voilà, justement, en faisant cette recherche sur les gens qui vivent dans la forêt et qui vivent seuls, en fait, c'est compliqué, la solitude. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, un quotidien, l'écriture est une forme de solitude. Mais voilà, donc, oui, il y a des moments, c'est bien d'être seul, mais je crois quand même foncièrement que je crois au collectif et à la force du collectif.
Antoine Rubin, invité de Double Fesse cette semaine avec votre ouvrage Calcaire au pluriel, parce qu'il y a plusieurs calcaires, vous l'avez dit, vous l'avez expliqué précédemment. Si on parle écriture, plaisir, doute, comment ça se passe votre processus d'écriture ?
Ça dépend. Je crois que ça dépend à chaque fois. En fait, j'ai vraiment pas une formule magique. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'écrivais par flux. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui arrive, il y a un besoin d'écrire. C'est ce que j'appellerais un peu les moments de grâce. Hein. C'est quand on a vraiment... On est touché par quelque chose et on a besoin de le sortir. Mais ces moments-là, finalement, ils sont trop rares au quotidien pour en faire une pratique quotidienne d'écriture, justement. Et donc moi, concrètement, dans mon bureau d'écriture, dans mon petit atelier en vieille ville, presque tous les jours, parce qu'en fait...
À Bienne,
c'est ça. Après, vous avez dit que principalement, je me consacrais à l'écriture, ce qui est vrai, mais j'ai aussi des boulots alimentaires hein, à côté. Ça dépend des années. Il y a des années où je peux que écrire, et c'est les belles années. Et puis, il y a les autres années qui sont aussi très belles, mais qui sont du coup plus parsemées au niveau du quotidien. Mais toujours est-il que quand je suis en phase d'écriture, voilà, je vais dans mon atelier à Bienne, en vieille ville, écrire. C'est une petite pièce de 10 mètres carrés. Je me fais un café ou un thé. C'est le matin, et puis j'essaie d'écrire une page, deux pages, trois pages, comme ça vient, et puis je repars en fin d'après-midi, puis après, si j'ai encore du jus, plus tard le soir, j'aime bien écrire aussi le soir et la nuit. Mais là, maintenant, je suis plutôt dans un rythme diurne, plutôt la journée, quoi. Un temps, j'écrivais presque la nuit, et j'aimais bien ça aussi. Après, je crois que c'est, du coup, donner beaucoup d'impulsion au début. Souvent, les débuts sont importants, j'ai l'impression, pour un long texte, en tout cas quand ça devient un roman. Et puis après, ben, c'est tenir cette discipline. Et puis oui, et ben, on avance par doute. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une traversée en voilier, en solitaire, une transat, un peu comme ça. J'ai l'impression une transatlantique, quoi. Ou gravir un peu une montagne. Et puis après, on arrive à un moment donné, puis on se dit, ah ben, j'ai fait tout ce chemin, je peux pas rebrousser, mais quand même, sacrément inconscient, le type. Non, mais voilà. Mais après, il y a des textes plus courts. Enfin, c'est vraiment, c'est différent à chaque fois.
Alors, il y a le doute de l'écrivain quand il est seul, de l'auteur ensuite quand il est publié. Il y a aussi, donc, le lecteur, l'électrice. Et les messages qu'il vous procure au fur et à mesure de la lecture, est-ce que ça influence vos futures œuvres ?
Je pense que de toute façon, on n'écrit pas... Enfin, moi, j'écris pour moi, mais je sais quand même me dire qu'en écrivant des choses, j'ai quand même une forme de responsabilité à travers ce que je dis. Hein. Enfin, qu'il y a en tout cas une idée que... Je suis totalement libre de faire ce que je veux, mais j'ai quand même envie, finalement, de ne pas être totalement imperméable aux autres. Hein, c'est quand même une manière de communiquer. Et donc, dans cette idée d'être perméable, donc il y a des idées, de dramaturgie, finalement, pour rendre un livre agréable, si on veut bien, à la lecture. Mais après, les retours, je ne sais pas dans quelle mesure ils m'influencent. Enfin, c'est compliqué à dire. En tout cas, c'est un soutien, ça c'est clair, d'avoir des retours. Enfin, souvent, les retours que j'ai, en tout cas, sont plutôt positifs, parce que quand on a des retours négatifs, de toute façon, on ne les partage pas en général. La critique littéraire en Suisse existe encore un petit peu, mais plus vraiment. Enfin, voilà, c'est-à-dire que... Il y a des recensements, il y a un peu de critique, mais on n'est pas confronté à une arène où on dit « Ah, j'ai détesté ton livre, ah, j'ai adoré, machin, etc. » Donc tout ça pour dire que les retours sont importants, puis les retours font du bien d'avoir un petit message, que ce soit d'amis, de famille, de père, de père PAIR, hein, donc de collègues, de camarades, auteurs, autrices. Donc oui, ça c'est important pour se donner finalement le courage de continuer à écrire. Mais après, dans les thématiques, je crois que ça c'est la propre chimie cuisine interne à chacun et à chacune.
Et c'est à ce moment-là que le plaisir de la reconnaissance compense le doute qui est aussi omniprésent chez l'écrivain que vous êtes, Antoine Rubin.
Oui, alors, le plaisir, évidemment, la reconnaissance, c'est important, hein, d'une certaine manière, parce que si on n'a aucune reconnaissance, on peut continuer à être tout seul, mais disons que ça devient plus compliqué. Donc, effectivement, que la reconnaissance fait plaisir.
Mais elle rassure aussi.
Je ne sais pas si c'est le moteur principal de l'écriture. En tout cas, pas chez moi. La reconnaissance n'est pas le moteur principal. C'est plutôt une idée qui arrive, et puis une envie de mouvement. En fait, justement, derrière mes livres, il y a souvent une idée de voyage, etc. Donc c'est ça qui est un moteur vraiment à l'écriture. Après, ça permet, la reconnaissance permet en retour, par exemple, s'il s'agit de bourses ou de subventions, de continuer à faire ce qu'on aime. Ça, c'est clair.
Mais je posais aussi la question de la reconnaissance par rapport au contrebalancement du doute. Parce que douter tous les jours et souvent quand on écrit, il faut qu'à un moment, peut-être, me semble-t-il, ça soit compensé par quelque chose qui rassure.
Oui, c'est ça. Après, y a des textes où on doute moins. Et puis ça, c'est les beaux textes, quoi. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que l'énergie est fondamentale dans l'écriture. Et puis, moi, j'écris bien quand j'ai une confiance absolue, aveugle. Mais ça, peut-être que je l'ai un peu moins depuis les premières années où j'écrivais, parce que peut-être que quand on est plus jeune, on a vraiment une confiance aveugle pour la vie. Et effectivement, plus la vie avance et plus les doutes s'installent. Selon les thématiques qu'on traite, oui, il y a du doute qui s'installe. Il y a du doute par rapport à ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, à ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, surtout quand on est proche du réel. Il y a des doutes par rapport à est-ce que j'ai la force de continuer à écrire quand il y a des jours sans, hein, où on n'a pas le feu. Donc effectivement que la reconnaissance à ce niveau-là, ou en tout cas donne de l'énergie, mais je crois que c'est plus alors à ce moment-là le soutien ou les petites routines qu'on arrive à mettre en place qui redonnent la force. Donc oui, le soutien des proches, hein, qui sont là, qui nous voient être dans notre grotte d'écrivain au quotidien.
On arrive au terme de cette rencontre, Antoine Rubin. Je rappelle que votre livre « Calcaire » est donc en lice pour le prix du livre de la ville de Lausanne, ce qui veut dire que pour cette 12e édition, il est disponible en librairie, il est disponible en bibliothèque et il est disponible aussi en lecture libre accès sur le site du prix du livre de la ville de Lausanne. Et comme c'est un vote 100% public, chaque vote compte et chaque lecteur ou lectrice peut voter pour l'ouvrage de son choix. On en arrive donc au terme de cette rencontre et c'est l'exercice du tac au tac. Vous voyez l'idée ?
Je peux imaginer.
Vous aviez parlé tout à l'heure de votre routine d'écriture. C'est à la main ou c'est à l'ordinateur ?
À l'ordinateur. Après, je prends beaucoup de notes dans un carnet aussi.
Et vous gardez les petits carnets ?
Oui, évidemment, ouais, bien sûr.
Alors justement, dans ces questions du tac au tac, question courte, réponse comme vous voulez, si votre ordinateur portable pouvait parler, quelle serait sa première plainte ?
Je crois que ça serait son clavier qui serait fatigué. Puis aussi, il est toujours dans mon sac, je l'intramale partout. Donc, il est un peu malmené, quoi, cet ordinateur. Je crois qu'il a mal au dos et puis il a mal aux mains.
Antoine Rubin, si vous pouviez déménager dans le décor d'un de vos livres, vous choisiriez lequel ?
Peut-être la Norvège dans Mémoire d'une forêt. Dans le livre Mémoire d'une forêt, il y a un moment qui se passe en Norvège, un voyage là-bas au nord, et c'est il y a l'océan, il y a la montagne, c'est magnifique.
Si vous pouviez décrire votre routine d'écriture en un seul hashtag, ce serait lequel ?
Hashtag tous les jours.
Votre plus grande qualité, selon vous, Antoine Rubin ?
Plus grande qualité. Aucune idée. Je sais bien faire à manger, je crois. Je crois que je peux dire que je sais bien cuisiner.
Votre spécialité ?
J'en ai pas, en fait, de spécial. Ça dépend des moments, quoi. Puis ça dépend de la saison, un peu ce qu'il y a au marché ou dans le jardin. J'aime bien les choses simples, simplement. Mais
Ouais. Et votre plus grand défaut ? Ça, c'est pour faire une moyenne avec la plus grande qualité.
Plus grand défaut. La paresse, des fois. Je suis un paresseux aussi.
Si vous deviez vous décrire en deux phrases, Antoine Rubin.
Oh là là, le tac au tac. Se décrire en deux phrases. Je suis un casual boy, quoi. Un mec normal, casual. Non, je sais pas quoi dire dans le sens que... Non, je sais pas. Enfin, je me sens... oui, non, c'était un rappeur qui disait « Ah, je suis juste un casual boy, je suis pas un big boss, je suis pas machin, je suis juste un type enfin, standard, quoi. » Alors voilà, ça me va bien, un type standard, comme description.
Et si votre parcours d'écrivain avait un générique de début, vous qui aimez aussi le rythme pour les mots, quel en serait la musique ?
Je crois que ça serait du rock psychédélique. Peut-être quelque chose comme les Black Angels ou Goat.
Si vous pouviez avoir un super pouvoir, Antoine Rubin, lequel choisiriez-vous ?
Ah, celui de plus jamais devoir travailler.
On en revient à la paresse. Mais travailler, donc on ne parle pas de l'écriture, là, on parle du travail qui remplit le frigo.
Ouais, c'est ça. Non, mais non, j'aimerais continuer à écrire. Et puis même, j'ai du plaisir au travail de manière générale. Un super pouvoir, pouvoir me déplacer instantanément partout là où j'ai envie d'être.
Vous avez grandi avec Harry Potter ?
Oui.
Et lui pouvait le faire.
Les chairs de poule aussi. Bon, je ne sais pas si ça compte.
Antoine Rubin, les 30 dernières secondes, il y a un timer derrière moi, les 30 dernières secondes sont à vous. Vous en faites ce que vous voulez.
30 secondes à moi, c'est agréable d'avoir du temps. Hein, et du temps qu'on gâche. Souvent, je gâche mon temps comme ça, en essayant d'épiloguer sur des choses et je ne sais pas quoi dire. Non, mais déjà, merci de m'avoir invité dans cette émission. Évidemment, je suis reconnaissant que mon livre ait été sélectionné par le prix du livre de la ville de Lausanne. Je souhaite aussi bonne chance à mes camarades, collègues. C'est toujours un peu étrange, finalement, d'être dans un prix. Je crois dans la littérature, il y a cette idée que on est en train de concourir chacun, chacune, pour nos petites écuries, nos marques à nous, nos propres noms, quoi. Et donc, des fois, je souhaiterais un peu plus de collectivité dans le monde littéraire. Je trouverais ça joli. Mais c'est un peu le cas, disons, dans l'envers du décor de ce prix du livre de la ville de Lausanne. On s'est déjà rencontrés quelques fois, hein, les cinq personnes sélectionnées. Et il y a une chouette entente. On rigole bien, donc c'est agréable. Voilà, bonne chance à eux et à elles.
Et bonne chance à vous, Antoine Rubin, puisque vous faites partie des auteurs et autrices sélectionnés. Le prix du livre de la ville de Lausanne, votre ouvrage et les quatre autres sont disponibles sur le site prix du livre et puis également en bibliothèque et en librairie. Bonne suite à vous.
Merci beaucoup.
Et résultat des votes, ce sera le 31 décembre. Ça, c'est la clôture des votes. Et le sélectionné ou la sélectionnée sera révélée en janvier. On a tout dit.
Je crois qu'on a tout dit. On n'a jamais tout dit.
C'était le premier épisode donc, des aventures d'Antoine Rubin. Merci beaucoup dans Double Face.
Merci beaucoup.